Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour, une nouvelle la semaine qui démarre. Ravi de vous retrouver sur VOA Afrique pour le monde aujourd'hui. Jacques Aristide avec vous, en compagnie de Anne Albertson en ce lundi 5 janvier 2015. Bonjour Anne.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Les titres ce matin, 6 casques bleus nigériens blessés dans le nord du Mali au lendemain du décès du maire d'une commune tombé dans une embuscade.
Le maire grièvement blessé est évacué à Gao. Il succombe à ses blessures lui aussi ce samedi dans l'avion de l'amunissement qui le transportait à Bamako où il devait être soigné.
En RDC, rencontre prévue ce lundi entre le président Joseph Kabila et les notables de son fief du Katanga. Dans l'actualité encore, au Soudan, l'opposition fustige les amendements constitutionnels confortant les pouvoirs du président Omar el-Béchir. Et dans la partie magazine, coup de projecteur sur le dialogue de sourds entre gouvernement et opposition autour des élections au Bénin.
Joël Goth au nom de la Renaissance du Bénin.
Les points d'accord au dialogue seront exécutoires. Et il refuse.
Le ministre Gustave Solan.
Le mandat que nous avons reçu, c'est de faire des propositions.
À venir également nos rubriques habituelles, le billet de l'économie, les sports et la plage musicale.
Au Mali, un véhicule transportant des troupes de la MINUSMA appartenant au contingent nigérien a heurté hier dimanche un engin explosif sur la route Ansongo-Menaka dans la région de Gao. Bilan, 6 blessés, dont 3 dans un état grave. Quant au maire de la commune d'Anderambukan, Arudaini Agamatu, victime d'une attaque entre Menaka et sa commune jeudi dernier, il a succombé à ses blessures avant-hier dans l'avion de la MINUSMA qui le transportait à Bamako pour recevoir des soins. Le gouvernement malien a fermement condamné ce drame qualifié d'acte terroriste. Sur place, notre correspondant Boubacar Touré.
Celui qu'on appelle affectueusement Aroud, de son vrai nom Aroudaini Agramatou, est le maire de la commune d'Andramboukan, située à quelques 95 km de Menaka en allant vers le sud-est. Il tombe dans une embuscade tendue par des hommes en armes qui circulaient sur des motos le jeudi 1er janvier 2015 à quelques 40 km de la ville de Menaka. Alors qu'il se rendait dans sa commune, l'attaque a fait 4 blessés dont le maire et son fils. Transporté rapidement à Menaka, son fils et un autre blessé succombent à leurs blessures peu après. Le maire gris grièvement blessé, est évacué à Gao. Il succombe à ses blessures lui aussi ce samedi dans l'avion de l'amunissement qui le transportait à Bamako où il devait être soigné. D'aucuns pensent qu'il a été attaqué par des éléments du Mujao qui rôdaient dans la zone. D'autres pointent du doigt des éléments proches du MNLA puisque le maire a fréquenté les indépendantistes qu'il quitte pour revenir avec la République. Le contingent nigérien de l'amunissement était en déplacement sur l'axe Ansongo-Menaka lorsqu'un de ses véhicules de transport a heurté un engin explosif. L'amunissement condamne dans les termes les plus forts cette attaque sur les soldats de la paix et réitère son appel à tous les acteurs en présence sur le terrain impliqués dans le processus de paix au Mali. En tout cas, comme Kidal, le cercle de Menaka échappe au contrôle du gouvernement du Mali et devient du coup une zone à haut risque où les embuscades et les engins explosifs continuent à faire des victimes civiles et militaires. Gao, Boubacar Touré pour VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, le chef de l'État, Joseph Kabila, doit prendre part, ce lundi, à un important rassemblement politique au Katanga, dans le sud-est du pays, rapporte l'AFP, Radio Kabila, Radio de l'ONU en RDC. Cette réunion inclut des entretiens avec les notables katangais. Le président séjourne depuis 5 jours à Lubumbashi, au Katanga, sa province d'origine. D'après une source à la présidence citée par l'AFP, il s'agira d'unir tous les katangais et de faire une concertation au sujet de la présidentielle de 2016. Alors que prendra fin cette année-là le deuxième et dernier mandat du président Kabila, un débat qui a été lancé sur un éventuel troisième mandat donne lieu à des graissements de dents.
Des militants présumés du groupe islamiste nigérian Boko Haram se sont emparés d'une base de la force multinationale composée du Cameroun, du Nigeria, du Niger et du Tchad. Seuls des soldats nigérians s'y trouvaient au moment de l'attaque près de Baga, au bord du lac Tchad. Les assaillants ont également pris plusieurs localités nigérianes, forçant des centaines d'habitants à fuir par bateau et pirogue vers le Tchad. Un rescapé que cite l'AFP a fait état de plusieurs personnes tuées. Avant-hier, une attaque de Boko Haram contre un bus interurbain avait fait au moins 15 morts dans l'extrême nord du Cameroun.
Le groupe islamiste somalien Al-Shabaab a revendiqué la responsabilité de l'attentat à la voiture piégée qui a tué 4 civils ainsi que le kamikaze et fait au moins 5 blessés hier à Mogadiscio.
L'opposition soudanaise, très remontée à la suite de l'adoption hier par le Parlement d'une série d'amendements constitutionnels renforçant les pouvoirs du président Omar el-Béchir et des services de sécurité. Le dirigeant soudanais, qui briguera un autre mandat aux élections du 13 avril, est désormais chargé de désigner les gouverneurs des 18 États du pays. Timothée de Nangmaï a joint à Paris Mohamed Nadji, rédacteur en chef du journal Sudan Tribune.
On s'étonne des amendements constitutionnels si majeurs faits à un moment où le président de la République lui-même invite à une conférence nationale pour la dialogue dans le pays afin de discuter des questions de paix et de réformes constitutionnelles. Il n'en reste rien pour les gens. C'est ça qui est vraiment très désolant et décourageant, j'imagine, par rapport à l'opposition. D'ailleurs, comme vous le savez, il y a le congrès populaire de Hassan al-Turabi. Les députés au Parlement de ce parti, ils ont protesté, ils se sont retirés de la séance et ils ont dénoncé cette mascarade d'après leur dire, parce qu'ils disaient que de pareilles modifications, changements constitutionnels ne peuvent pas être faits sans auparavant entreprendre une large consultation dans le pays. Et ça, ça n'a pas été fait.
Dans ce contexte, de quelle marge de manœuvre dispose l'opposition soudanaise?
Là, écoutez, il n'y a aucune marge, comme vous savez. L'opposition, ces gens-là, s'ils disent un mot, ils sont arrêtés, comme vous le savez.
Mohamed Nadji, rédacteur en chef du journal Sudan Tribune, joint à Paris.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, un soignant américain probablement exposé au virus Ebola en Sierra Leone a été placé en observation dans un hôpital de l'État du Nebraska. Pendant ce temps à Londres, l'infirmière britannique Pauline Kafaki, une volontaire infectée en Sierra Leone, est dans un état critique. Il n'y a pas de plan B contre l'Ebola. Le virus doit être vaincu, a déclaré Ismaël Ould Sheikh Hamed, nouveau chef de la mission de l'ONU pour la lutte contre Ebola.
Retour aux États-Unis, ouverture aujourd'hui du procès de Djokhar Tsarnaev, unique suspect en vie des attentats d'avril 2013 qui avaient fait 3 morts et plus de 260 blessés au marathon de Boston. Les précisions de Timothée Donangmaï.
On procédera à la sélection du jury après qu'une cour d'appel eut rejeté la semaine dernière une requête des avocats de Tsarnaev visant à retarder le procès ou à l'organiser dans une autre ville. Le jeune homme de 21 ans fait face à 30 chefs d'accusation, y compris celui de conspiration en vue d'utiliser une arme de destruction massive. Avec son frère Tamerlan, il est accusé d'avoir fait exploser 2 bombes artisanales dissimulées dans des cocottes minutes près de la ligne d'arrivée du marathon de Boston, semant la terreur parmi les marathoniens et les spectateurs. Naturalisé américain, Tsarnaev, un musulman d'origine tchétchène, est aussi accusé du meurtre d'un policier sur un campus universitaire, 3 jours après les attentats du marathon, alors que son frère et lui tentaient de fuir la zone après avoir été identifiés comme des suspects. Tamerlan a été tué dans une fusillade avec la police. Tsarnaev, lui, sera arrêté plus tard dans un bateau dans la banlieue de Boston.
Toujours aux États-Unis, des policiers ont afflué par milliers hier à Brooklyn pour les obsèques du second des 2 agents new-yorkais assassinés le mois dernier. Et signe de tension persistante, certains d'entre eux ont tourné le dos au maire de New York, Bill de Blasio, lorsqu'il a prononcé l'éloge funèbre pour rendre un dernier hommage à Wei-Jian Liu, premier policier sino-américain de New York, à être tué en service. Comme chaque matin, l'heure de passer à la Minute Éco, l'actualité économique en Afrique et ailleurs, avec Timothée Donangmaï. Bonjour Tim.
Bonjour Jacques.
L'Algérie va renforcer le contrôle de son commerce extérieur pour faire face à la baisse de ses revenus pétroliers.
L'objectif est de réduire la facture des importations qui a triplé en 10 ans, a expliqué le ministre algérien du Commerce, Amara Beyounès, que cite la presse. Selon le budget algérien adopté la semaine dernière, les importations se chiffreront à 65 milliards de dollars contre 20 milliards en 2005. L'Algérie tire plus de 95% de ses recettes extérieures du pétrole brut, si bien que la baisse des cours suscite de vives préoccupations. La vraie solution réside pour l'Algérie dans la diversification de son économie à travers la relance des secteurs de l'industrie, de l'agriculture et du tourisme, a estimé M. Beyounès, que cite l'AFP.
Une chaîne de café nigériane, Tim, envisage de convertir le continent africain à la dégustation du café.
Œuvre d'un jeune entrepreneur nigérien, Ngozi Dozier, et de son frère Chijoke, La chaîne Neo veut s'imposer sur le continent avant que le géant américain du café, Starbucks, ne découvre ce marché méconnu. Selon l'AFP, le duo mise sur les expatriés africains de retour et qui voudraient retrouver le latte ou le cappuccino dont ils ont l'habitude en Occident. Pour l'instant, les deux frères comptent 3 cafés à Lagos et 1 à Kigali.
Et le transport des migrants clandestins continue d'être une affaire de gros sous pour les trafiquants.
Eh oui, Jacques, certains des migrants récemment arrivés sur les côtes italiennes ont déboursé jusqu'à 8 000 $ chacun selon les autorités italiennes. Ces derniers temps, les trafiquants recourent à des navires cargo pour acheminer les migrants en plus grand nombre, augmentant de manière dramatique leurs revenus, des gains qui risquent malheureusement de perpétuer ce trafic d'êtres humains.
Merci Timothée. Sans plus tarder, le point sur l'actualité sportive avec notre correspondant Élisée Oumpati. Bonjour Élisée.
Oui, bonjour Jacques.
La CAN 2015 d'abord, qui se rapproche un peu plus de 2 semaines de la compétition et on signale déjà quelques forfaits, le cas du Guinéen Bouna Sarr.
Oui Jacques, le joueur de Metz a donc renoncé à sa sélection. Le Sili National va disputer cette messe continentale sans Bouna Sarr, pourtant sélectionné par Michel Dessuyer. Le franco-guinéen a préféré se consacrer à son club. Le technicien français va devoir convoquer un autre joueur à sa place.
Le Malien Cheikh Diabaté, lui aussi, sera absent pour cette compétition.
L'attaquant international malien va subir très prochainement une opération du genou et devrait être absent durant 4 mois. Il manquera donc cette compétition qui débute le 17 janvier prochain. Diabaté, 26 ans, meilleur buteur de Bordeaux cette saison avec 8 réalisations, se plaint depuis plusieurs mois de problèmes récurrents au genou.
Pour sa part, Christian Gourcuff va devoir modifier sa sélection.
Exactement, Jacques. Le sélectionneur de l'Algérie va devoir faire face à quelques forfaits dans sa liste de 23. Le défenseur de Trabzonspor, Messaïd Ben Khaled, et le milieu de terrain de Newcastle, Mehdi Adeyib, sont tous blessés, comme l'annonce la Fédération algérienne de football. Pour les remplacer, Gourcuff a fait appel au défenseur d'Osasuna, Yassine Kamamouro, et le médecin Ahmed Kashi. Les deux hommes rejoindront la sélection dans les prochains jours au camp de préparation de Sidi Moussa.
Et puis Élisée, la CAN n'a pas encore commencé et déjà le pays hôte change de sélectionneur.
La Guinée équatoriale n'a pas renouvelé le contrat de Golkossa qui a expiré le 31 décembre. La Fédération équato-guinéenne de football a expliqué qu'Andoni Golkossa a violé son contrat en refusant de voyager au Portugal avec l'équipe nationale le 16 décembre dernier. Pour le remplacer, c'est l'Argentin Esteban Becker qui a été choisi. Âgé de 50 ans, l'homme était à la tête de l'équipe féminine de la Guinée équatoriale qui a remporté la CAN de 2012.
À peine le mercato hivernal ouvre ses portes et déjà quelques mouvements sont à signaler.
Et cela concerne l'espérant de Tunis, Fousseni Koulibaly, Yannick Ndjeng et Harrison Afoul ne seront plus joueurs des 100 et or. Le club a décidé de les laisser partir. Cette décision s'explique par le fait que l'espérance s'est renforcée ces derniers temps avec plusieurs recrutements. Athènes, Béajoui et Chedli Grab ont rejoint les 100 et or, alors que le Brésilien Mayo Cruz et le Malien Moussa Mariga pourraient débarquer dans les prochains jours.
Et nous allons clore avec la Ligue espagnole qui a vu la chute du leader pour le compte de la 17e journée.
Après Chelsea en Angleterre, c'est le Real Madrid qui chute en Espagne. Un revers qui intervient après une série de plus de 22 matchs sans défaite. En déplacement à Valence, les Merengues avaient fort à faire devant le 4e de ce championnat. Et ce, malgré l'ouverture du score de Cristiano Ronaldo, les hommes de Carlo Ancelotti ont montré une faiblesse incroyable en défense en concédant 2 buts. D'abord par l'Argentin Otamendi et puis l'Espagnol Parra. Une victoire qui permet donc aux pensionnaires de la Mestalla de conforter leur 4e place derrière l'Atlético Madrid vainqueur la veille, de l'éventer 3-1 grâce à un doublé du français Antoine Griezmann.
Merci Élisée. Un résumé maintenant des matchs disputés dimanche dans la NBA, le championnat de basket nord-américain. Les Suns de Phoenix ont infligé une 2e défaite aux Raptors de Toronto, 125-109. Ailleurs dans la NBA, Dallas 109, Cleveland 90, Sacramento 95, Détroit 114. Brooklyn 84, Miami 88, Milwaukee 95, New York Knicks 82, Indianapolis 87 et LA Lakers 88.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Voilà donc pour le tour d'horizon de l'actualité en Afrique et ailleurs dans le monde. Merci Anne, vous êtes toujours branchée sur la VOA émettant de Washington. Le Monde aujourd'hui se poursuit avec Jacques Aristide au micro. Cap maintenant sur la République démocratique du Congo, où les membres du personnel de l'hôpital de Panzi, l'établissement du renommé gynécologue Denis Mukwege, continuent leur sit-in devant la Direction générale des impôts, la DGI du Sud Kivu. Ils protestent contre la saisie de comptes bancaires par la DGI, mais également contre la discrimination dont leur établissement dit être victime sur le plan fiscal. Au sein de cet hôpital, connu dans le monde entier pour soigner les victimes de violences sexuelles, certains dénoncent un acharnement de la part des autorités. Un dossier complet de notre correspondante Jolie Kamuntu.
À l'origine de ce sit-in, la saisie du compte de l'hôpital de Panzi par la Direction générale des impôts, car selon cette régie financière, l'hôpital de Panzi a bloqué la mission de travail envoyée en 2013 pour établir les impôts impayés en 2012. Cela a provoqué une procédure de taxation d'office qui fait qu'aujourd'hui, la Direction générale des impôts réclame environ 600 millions de francs congolais, soit 600 000 dollars à l'hôpital général de Panzi. Le chef de division du contentieux à la Direction générale des impôts explique.
L'impôt est constitutionnel. L'article 65 le dit. L'article 174 est clair à ce sujet. On avait établi l'imposition parce que l'hôpital de Panzi n'a pas laissé la mission effectuer son travail normalement. Et une lettre d'imposition avait été établie. On a imposé conformément aux dispositions légales de l'article 41 de règles de procédure. Et l'imposition avait été notifiée à l'hôpital général de Panzi.
D'aucuns se demandent alors en vertu de quoi la Banque commerciale du Congo a exécuté l'ordre de la Direction générale des impôts de bloquer et de virer 47 000 dollars qui appartenaient à l'hôpital de Panzi dans le compte du trésor public. Un inspecteur d'impôts rencontré explique ceci.
Quand il y a une imposition, soit à la suite d'un redressement, vous avez payé, mais on contrôle vos états, vous avez mal calculé, là on fait un redressement. Mais s'il y a une obstruction au contrôle, comme c'est le cas ici, le vérificateur estime les montants que vous aurez dû payer. Et là, c'est ce qu'on appelle une taxation d'office. La taxation d'office est prise en charge dans notre système informatique. En ce moment-là, la dette vis-à-vis de l'État est due. Et nous enclenchons une autre procédure maintenant de recouvrement. Et après un délai qui est prévu aussi par la loi, ces impôts-là sont considérés maintenant comme une dette vis-à-vis de l'État congolais. Et à ce moment-là, l'État congolais va déclencher notre procédure qu'on appelle la procédure de recouvrement. Vous le payez dans les 15 jours. Quand vous ne le faites pas, on passe à d'autres procédures, notamment ce qu'on appelle l'avis à tiers détenteur. Et c'est ce qui a été fait. Le tiers détenteur, ça peut être la banque, une autre entreprise ou le contribuable avec lequel l'hôpital de Panzi est en relation d'affaires, qui détient des sommes dues à l'hôpital de Panzi. Pour le cas d'espèce, la DG s'adresse à la banque et la banque exécute.
L'hôpital de Panzi, de son côté, crie à un acharnement et à une discrimination fiscale. Au cours d'une conférence de presse tenue ce week-end, le docteur Denis Mukwege affirme que son hôpital est reconnu comme hôpital général de référence et ses employés sont des agents de l'État dont les impôts sont prélevés à Kinshasa par le ministère des Finances. Docteur Denis Mukwege.
La direction de l'hôpital général de référence de Panzi est extrêmement préoccupée par cette situation qui entraîne par voie de conséquence diverses violations de droits humains. Droit à la santé pour les malades, dont le droit à la vie est mis en péril à défaut d'approvisionnement en médicaments essentiels et autres fournitures nécessaires pour prodiguer des soins. Mais aussi une violation du droit de ces agents à percevoir leurs rémunérations pour leur travail presté.
L'hôpital de Panzi a assigné depuis novembre dernier la Direction générale des impôts, la Banque commerciale du Congo et l'État congolais en justice. Le sit-in se poursuit. Les activités de l'hôpital de Panzi sont paralysées depuis quelques jours et aucune réaction jusque-là de la part des autorités. Bukavu, Jolie Kamuntu, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur Radio Télé Mwangaza, à Lubumbashi, province du Katanga.
Les tensions politiques ne retombent pas au Bénin. Toujours pas de liste électorale permanente informatisée à 4 mois des législatives et à 15 mois de la présidentielle. Pour les opposants, ce n'est qu'un prétexte pour que le président Thomas Boni Yayi se maintienne au pouvoir. Le camp du chef de l'État affirme, lui, que l'opposition est responsable du blocage actuel. Peggy Ludovic Dagba.
Le dialogue politique réclamé par toute la classe politique béninoise a du plomb dans l'aile. Les partis de l'opposition posent des préalables avant d'y prendre part. Lazare Serwitor de la plateforme des partis politiques réclamant la tenue effective des élections et Joël Godonou de la Renaissance du Bénin, le parti de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo.
L'accès aux médias du service public, le retrait du projet de révision de la Constitution qui est à l'Assemblée nationale et enfin le caractère exécutoire des points d'accord. Nous disons les points d'accord au dialogue seront exécutoires. Et ils refusent. Pourquoi on ferait le dialogue alors?
À la Renaissance du Bénin, nous avons énuméré deux préalables. Le premier, c'est l'accès équitable à toutes les formations politiques ou à tous les participants au cours donc de ce dialogue. Ensuite, la sécurité de tous les participants.
Le ministre chargé des relations avec les institutions trouve pour sa part qu'il s'agit plutôt de points dont il faut débattre lors du dialogue en lui-même. Gustave Sono.
Au départ, nous avons listé sept préalables. C'est des préalables à satisfaire avant d'aller au dialogue. Mais nous avons quand même constaté que c'est des points plutôt à débattre. Normalement, on aurait pu faire ça parce que le mandat que nous avons reçu, c'est de faire des propositions.
Mais tout ceci ne fait pas avancer et l'impasse demeure. Les membres de la plateforme accusent la mouvance présidentielle d'être responsable de l'échec de l'initiative du dialogue. Amissetou Afo-Djobo et Séraphin Agbangbata de la plateforme.
On a voulu balayer ces préalables-là en nous disant que nous sommes entendus là-dessus. Et nous avons dit non. On a évacué parce que le premier jour, on est resté rien que sur un préalable jusqu'à la fin de la journée. Et donc on s'est dit effectivement, si on fait ça, on ne va pas avancer sur les autres points. Et comme nous, on veut prouver notre bonne foi, nous avons accepté que ce soit en dernier ressort qu'on parle donc de ces préalables. Le peuple doit comprendre ce qui se passe. Je sais que eux-mêmes en ce moment sont en train d'organiser la campagne d'intoxication, de mensonges, de désinformation pour dire ce qui n'est pas.
Chaque formation politique a apporté un document comportant cette proposition, cette perspective et tout ce qu'il entend mettre en œuvre pour la sortie de crise. La RDA a eu un document en bonne et due forme. Le PRD a eu un document en bonne et due forme. La plateforme en a eu également un en bonne et due forme. Mais lorsque la FCDE s'était levée pour présenter alors sa proposition, elle a mené un feuillet, un seul feuillet, avec deux petits points.
Les discussions se poursuivent malgré tout entre les parties au dialogue pour aboutir au consensus, rassure le ministre chargé des relations avec les institutions. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, pour La Voix de l'Amérique.
Au Mali, nous vous en parlions au début de cette édition, la recrudescence de la violence dans le nord inquiète la population. De passage à Bamako, le ministre français de la Défense a annoncé le renforcement de la force Barkhane, la correspondance de Kassim Traoré.
Les musulmans du Mali ont célébré le dimanche 4 janvier 2015 le Mauloud ou la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Plusieurs prières et des bénédictions ont été dites pour le retour de la paix au Mali.
Le jour de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam est aussi un jour de baraka. C'est pourquoi, en tant que musulmans, il nous est demandé de montrer notre amour que nous avons vis-à-vis du prophète alayhi salatu wassalam.
Cette année, tous les musulmans vont prier vraiment Allah pour ramener la paix dans notre pays.
Les différentes communautés des régions nord du Mali se disent préoccupées par la violence entre les groupes armés. Mohamed Fald Ould Mohamed, secrétaire politique de l'Alliance de la communauté arabe du Mali, Al-Karama.
Permettez que nous rappelions la grande souffrance de nos populations et leurs grandes inquiétudes depuis qu'elles sont prises de plus en plus fréquemment à partie dans les affrontements que se livrent les mouvements armés anti- et pro-gouvernementaux et que conséquemment elles s'inquiètent que les combats ne dégénèrent en guerre ethnique et encore plus. Les cas de Ber et de Bamba qui sont les plus récents sont assez révélateurs. Mais en réalité, toutes les autres zones, dans tout le Sahara, les populations sont livrées à elles-mêmes.
Sur la question sécuritaire au nord, le ministre français de la Défense, de passage à Bamako, a échangé avec le président Ibeka pendant 2 heures. Il a été surtout question des futurs accords de paix, mais aussi de la situation de Kidal. Jean-Yves Le Drian.
Nous avons fait le point sécuritaire. Nous avons pu constater que la mise en œuvre de Barkhane était efficace, que ça allait encore se renforcer. fait pour dissuader tous les terrorismes et continuer à avancer dans la paix et la sérénité sur l'ensemble de la zone, pas uniquement sur le Mali, sur le Niger, sur le Tchad, mais évidemment aussi sur le Mali. Le Mali est un grand pays qui a beaucoup d'avenir. Son avenir passe d'abord par une paix rétablie, une confiance entre les communautés. Je suis très très positif à l'égard de ce qui se déroule à Alger. Je souhaite vraiment pour tout le monde que ce soit des accords de longue durée.
Le dimanche 4 janvier 2015, au matin, un engin a explosé lors du passage du véhicule transportant des troupes du contingent du Niger de la MINUSMA. C'était sur la route Ansongo-Menaka dans la région de Gao. L'attaque a fait 6 blessés, dont 3 sont plus graves. Les soldats nigériens avaient évoqué il y a quelques semaines la menace terroriste dans la localité.
Il n'y a que le harcèlement, la pose des mines, des engins explosifs. C'est tout ce que nous subissons, c'est juste la difficulté. Sinon la population, elle collabore.
Les 6 soldats nigériens ont été évacués à Ansongo dans la journée du dimanche 4 janvier. Ils ont par la suite été transportés vers Gao où ils ont reçu des traitements médicaux plus appropriés. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Comme à l'accoutumée, notre pause musicale, avant de refermer le monde aujourd'hui, nous retrouvons Roger Muntou. Bonjour Roger.
Bonjour Jacques. Après Makeba, Dibango, Fela, Youssoundour et Mori Kanté, Angélique Kidjo est la plus jeune des artistes africains à connaître une véritable carrière internationale. On l'écoute ce matin dans Wombo Lombo.
Wombo Lombo, 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 Wombo Lombo.
Bien Roger, début 95, Angélique Kidjo et son mari Jean Ibrahim passent plusieurs mois au Bénin, dans les villages notamment, pour enregistrer des musiques traditionnelles.
Mais Jacques, c'est un long travail de recherche et d'écoute hein, que le couple aime bien utiliser dans plusieurs albums de la chanteuse. C'est également une occasion de se ressourcer. Hein. Angélique Kidjo en profite d'ailleurs pour s'inspirer des percussions béninoises pour les intégrer à ses compositions.
Angélique Kidjo dans Wombo Lombo. Merci Roger.
De rien Jacques, merci à vous et à tous nos auditeurs francophones de Lunda North en Angola.
Roger Muntou que vous retrouverez ce soir à 20h temps universel. Voilà, ainsi s'achève le monde aujourd'hui. Anne Albertson a dirigé la mise en onde. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous. Je vous souhaite une très bonne semaine et une belle journée de lundi sur la VOA. Take care, à demain matin.
Pour les dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.